130 livres, chronique du 24 mars 2018, 4-3-2-1 de Paul Auster. S'attaquer aux 1016 pages de 4-3-2-1 de Paul Auster sans avoir jamais lu la moindre ligne de l'auteur s'apparente à une ascension du Tourmalet sans bien savoir si l'on aime le vélo. Le fait est que je m'en félicite. Ce beau parpaing raconte l'histoire, ou plutôt les histoires, de Ferguson, descendant d'un Ashkenaz d'Europe de l'Est passé par Ellis Island. En faisant varier certains détails de son environnement familial, notamment le destin du couple formé par ses parents Rose et Stanley, qu'ils deviennent riches, déclinent socialement, se séparent ou que l'un décède tôt, Auster crée quatre versions subtilement différentes du même personnage qui évoluent en parallèle, de la naissance à l'entrée dans l'âge adulte. Selon le contexte, il aimera son père ou se brouillera à mort avec lui, poursuivra ou non au lycée une carrière prometteuse de joueur de basket ou de baseball, perdra sa virginité avec une femme ou un homme, vivra ou non une passion amoureuse avec celle qui deviendra ou pas sa belle-sœur, s'installera plus ou moins tôt à New York, étudiera à Columbia ou Princeton, découvrira Paris en touriste ou en exilé, puis s'orientera vers le journalisme, la poésie ou le roman. Un tour sur la page Wikipédia de l'auteur montre à quel point les quatre Ferguson sont autant d'avatars de Paul Auster. Ils sont juifs et introvertis, nés dans le New Jersey en 1947, à la fois passionnés par le sport, le sexe, le cinéma, la France et les différentes facettes de l'écriture. Auster interroge, comme c'est apparemment son habitude, ce que sont les caractéristiques irréductibles d'un individu et la place du hasard et des contingences dans sa construction. 4-3-2-1 est aussi un roman historique. Chaque Ferguson observe de son point de vue particulier la terrible séquence politique des années 60 aux États-Unis, la pluie d'assassinats, l'enlisement de Johnson puis Nixon au Vietnam, la montée en puissance et la répression sanglante de la contestation étudiante et les émeutes raciales de Newark. La maturation progressive des Ferguson est une désillusion, la même qu'a sans doute connue Paul Auster et qui trouve un écho particulier dans l'ère de Trump. L'Amérique de 4-3-2-1 est un pays dont l'unité est un leurre, quelles que soient les volontés désireuses d'y aboutir. Même intéressé a priori par ces sujets, le lecteur avisé peut légitimement redouter de s'ennuyer ferme. On parle tout de même d'un kilo deux de littérature, livré dans un format pénible à manipuler, et des confusions régulières entre les Ferguson sont inévitables. Les descriptions de la généalogie puis de l'enfance du personnage ronronnent aimablement, la justesse des sentiments et des questionnements intimes de chaque version du petit garçon aidant à faire glisser l'ensemble. Mais c'est aux prémices de l'adolescence que 4-3-2-1 prend son envol. Parfois très longues, les phrases restent digestes car fondées sur la juxtaposition de propositions simples, plutôt que sur l'enchaînement de subordonnées complexes. Elles donnent une cadence remarquable à la lecture dont s'accommode bien le bouillonnement et l'incessante collision des émotions des Ferguson. Celui qui sera sensible au style de Paul Auster observera, fasciné, une sorte de Federer qui prend la balle très tôt après le rebond et soumet l'adversaire sans effort apparent à un bombardement gracieux sous tous les angles imaginables. Alors que celui qui n'y trouvera pas son compte devra juste prendre garde à ne pas se lâcher le copieux volume sur le nez ou les orteils. Il n'aura sans doute pas la belle récompense qu'offre la conclusion de 4-3-2-1, un prodige d'humour grinçant, dernière pierre dans le mausolée des espoirs des baby-boomers américains qui croyaient au changement. On fait ce qu'on peut pour convaincre de tenir jusqu'au bout.